Vers une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prudon et Alexandre Ribeyron.
Si l'on évoque la transition énergétique, le gouvernement semble vouloir favoriser l'installation de panneaux photovoltaïques, des pays détruisent des forêts pour produire des biocarburants. Alexandre, est-ce vraiment raisonnable ?
Ah, une question d'actualité. Oui, c'est un vrai problème qu'on va aborder aujourd'hui. Transition énergétique, tout le monde en parle. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, juste pour commencer, la définition du terme de transition que j'ai trouvé dans le dictionnaire, hein. C'est le passage d'un état à un autre état, en général, lent et graduel. L'autre définition également qu'on trouve de transition, c'est un état intermédiaire.
Entre deux états stables, par exemple.
Voilà, exactement. Alors,
peut-être une question, si on parle de transition énergétique, qu'est-ce que l'on veut ? Qu'est-ce que l'on veut concrètement ?
Excellente question. Eh bien, ce qu'on cherche à, me semble-t-il, si j'ai bien compris là, le problème, c'est d'avoir un monde dit décarboné. C'est-à-dire un monde où on est moins dépendant, en fin de compte, aux énergies fossiles et en particulier au pétrole qui permet à nos automobiles, nos camions de rouler, et également moins dépendant au charbon. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que dans l'histoire, il y a déjà eu ce phénomène de transition énergétique ? Eh bien, la réponse est non. Ce qu'on a observé dans l'histoire, même avec la révolution industrielle, en réalité, c'est un processus de substitution progressif. Hein. Si on regarde début du 19e siècle, qu'est-ce qui va être les énergies sont tirées du bois pour se chauffer, de l'éolien, il y avait de nombreux moulins, de l'eau.
Oui, les moulins à eau.
Les moulins à eau, il ne faut pas oublier. Je viens d'une région où, le long des rivières, il y avait ce qu'on appelait les fabriques, qui étaient tout simplement soit des scieries, des entreprises qui faisaient des tresses, des lacets, des entreprises textiles. Voilà. Et puis, également, la force animale, qu'il ne faut pas oublier. Donc ça, c'est le début du 19e siècle. Progressivement, s'est ajouté...
Le charbon.
Voilà. Mais le charbon, quand le pétrole est apparu, bien, au début du... L'utilisation importante, on va dire, du pétrole, c'est à partir du début du 20e siècle. Il y a encore eu le charbon, on a rajouté le pétrole, et puis l'électricité. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous dit, et on va voir si c'est si bien que ça, l'avenir, c'est l'électricité. Ah. Bon, ben c'est très bien. Et on vous présente... De partout, pour cette fameuse transition énergétique, on vous dit acheter une voiture électrique.
D'accord. Mais comment on produit de l'électricité, Alexandre ? On peut se poser la question.
Ah ben oui, on peut se poser la question et c'est peut-être pas mal de se poser la question. Il n'y a pas 36 moyens d'avoir de l'électricité. Via les énergies renouvelables, il y a l'éolien. Problème, c'est intermittent. Quand il n'y a pas de vent, vous n'avez pas d'électricité. Il y a le solaire, plus ou moins continu. Il y a l'hydroélectricité. Et puis, il y a les énergies fossiles.
Le charbon à nouveau.
Le charbon. Alors, quand les Allemands ont abandonné le nucléaire, ils ne sont pas tous mis à pédaler. Hein. Ils ont l'électricité.
Utiliser le charbon. Pour faire l'électricité.
Aujourd'hui, dans le monde... La plupart de l'électricité produite, c'est à partir de centrales à charbon. Alors vous allez me dire, ouh, il y a le nucléaire. Oui, il y a le nucléaire. C'est un cas un peu particulier, on ne va pas le développer. Pourquoi c'est un cas particulier? Parce que, enfin, globalement, quels sont les pays qui tournent au nucléaire à part la France?
Mais il y a le Japon, et on a vu...
Le Japon, oui, et encore, c'est qu'un élément industriel de l'énergie. Hein. Bon. Et puis, il y a un gros problème de l'électricité, quelle que soit son origine. C'est le problème.
Du stockage.
Oui. Alors, on nous dit...
Le tout électrique est-il une solution?
Bon, ok. Admettons. Mais ça signifie quoi? Que nous devons produire suffisamment d'électricité. Et d'électricité verte. Qui ne soit pas produite par l'utilisation
du charbon.
Ni par le pétrole, ni par le nucléaire. Donc, juste pour démythifier un petit peu la voiture électrique, moi j'aimerais que on pose véritablement le coût énergétique réel d'une voiture électrique entre la conception, l'utilisation, le recyclage et la pollution induite par ces différents compartiments.
Et en particulier les batteries.
Exactement, qui sont faites, on l'a vu dans une émission, avec des terres rares qui posent un problème pour être extraits.
Tout à fait.
Donc, je me pose la question... même si j'ai une réponse, est-ce vraiment si économe en énergie qu'on veut bien nous le dire? Donc, juste pour conclure mon propos avant de vous laisser la parole, est-ce qu'on est dans une perspective de transition? Je ne vois pas bien... Enfin, c'est une transition où on veut être à l'identique en fin de compte. Ou bien est-ce qu'il ne faut pas plutôt envisager une rupture? Je vous cède la parole, Didier.
Alors, sur ce plan de la rupture, ben, en fait, je voulais commencer par lire quelques extraits de l'encyclique Laudato Si. Alors, le premier, c'est le chapitre 165. Nous savons que la technologie reposant sur les combustibles fossiles très polluants, surtout le charbon, mais aussi le pétrole et dans une moindre mesure le gaz, a besoin d'être remplacé progressivement et sans retard. Tant qu'il n'y aura pas un développement conséquent des énergies renouvelables, développement qui devrait être déjà en cours, il est légitime de choisir le moindre mal et de recourir à des solutions transitoires. Cependant, on ne parvient pas dans la communauté internationale à des accords suffisants sur la responsabilité de ceux qui doivent supporter les coûts de la transition énergétique. Ça, c'est un premier point important, la difficulté à trouver un accord au niveau international.
Et le manque, on peut dire, de solidarité à l'échelle mondiale.
Tout à fait.
Le second point dont vous voulez nous parler,
Eh bien là, on va descendre d'un niveau pour entrer plus dans le côté local. En certains lieux, se développent des coopératives pour l'exploitation d'énergies renouvelables qui permettent l'autosuffisance locale et même la vente des excédents. Ce simple exemple montre que l'instance locale peut faire la différence alors que l'ordre mondial existant se révèle incapable de prendre ses responsabilités. Donc on voit encore là, par rapport, un point important qu'on trouve dans la doctrine sociale, l'importance de donner le maximum de possibilités au local pour développer ces solutions, et en particulier sur le plan énergétique.
C'est très juste et ça responsabilise les individus et les communautés.
Et le dernier point que je voulais aborder, ça, c'est toujours une citation de Laudato aussi, mais qui cite Benoît XVI, qui affirmait: il est nécessaire que les sociétés technologiquement avancées soient disposées à favoriser des comportements plus sobres, réduisant leurs propres besoins d'énergie et améliorant les conditions de son utilisation. Et là, ça nous ramène à chacun d'entre nous.
Non.
Et chacun d'entre nous peut agir.
Justement, comment agir? Chaque fois, ce qu'il y a de bien dans cette émission, c'est qu'on essaye de donner des pistes pratiques qu'on peut utiliser tout un chacun, en fin de compte.
Tout à fait. Alors, un élément déjà important, quelques chiffres que nous fournit l'ADEME. L'ADEME, l'Agence pour le développement des énergies. Le premier poste en termes de consommation électrique, c'est le chauffage. Le deuxième, c'est l'eau chaude. Troisième, c'est le froid. Quatrième, le lavage. Puis la cuisson, l'éclairage, télévision, etc. On voit qu'aujourd'hui, la télévision et l'informatique croissent énormément. Et on voit apparaître des écrans plats à plasma qui consomment trois fois plus d'électricité qu'un écran cathodique.
Normal. Ouais.
Voilà. Quand on a à faire un choix, il faut se poser aussi ces questions-là. Et le temps d'usage est de plus en plus en croissance. On utilise de plus en plus d'appareils électriques et de plus en plus longtemps. Alors, pour agir, observez sa consommation hebdomadaire. Listez tous les appareils et notez leur puissance et estimez l'usage journalier hebdomadaire. Est-ce que j'utilise tel appareil une heure, deux heures par semaine, par exemple? Et n'utilisez que ce qui est utile. N'achetez que ce qui est nécessaire. Favorisez les classes AAA. Quelques autres conseils pour réduire sa facture. Par exemple, nous, on avait un chauffage électrique, on est passé un chauffage au bois, à granulés. Ça permet de réduire sur une facture de 1 000 euros par an, 500 euros. C'est pas négligeable. L'éclairage à LED, éteindre en sortant d'une pièce, ça peut permettre d'économiser 18 euros par an. Cuisson, couvrir les plats, ça peut faire gagner 25 euros par an. Je pense à la cocotte norvégienne qui suffit, quand on a fini de cuire un plat, d'entourer par une couverture isolante et ça va continuer de mijoter sans consommer d'énergie.
Oui,
solution très simple. Hein.
Oui, que je ne connaissais pas et dont nous parlions tout à l'heure avant l'émission.
Tout à fait. Voilà. Et encore, il y a tout un tas de petits gestes que l'on peut trouver pour économiser petit à petit un peu d'énergie. Toujours commencer petit et modifier ses comportements pas à pas. Aussi, une information importante, une page Facebook, l'autonomie est la clé de notre futur, pour trouver tout un tas d'idées pour consommer moins d'énergie et produire de manière écologique.
Bah écoutez, maintenant, à nous de travailler, de faire quelques petites règles de trois et de déduire notre consommation pour essayer de la réduire.
Et de faire des choix judicieux.
À bientôt.
À bientôt.